Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Johanna Di Thoma et Khalil Jorej. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons Dancing Star des Pet Shop Boys. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours en Arabie Saoudite, à Alula. Elle nous fera découvrir ce soir plusieurs sites archéologiques millénaires, dont notamment les tombeaux Egra. Le tout est réalisé par Margot Page avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir, Johanna Di Thoma.
Bonsoir.
Bonsoir, Khalil Jorej.
Bonsoir.
Bon, ce soir, il faut que j'apprenne à tourner la tête. Hein. J'ai l'habitude d'être en tête à tête avec un invité. Mais vous concernant, évidemment, il me fallait les deux. Et on va voir que les deux travaillent depuis très longtemps déjà ensemble et qu'il y a une très riche actualité qui me donne l'occasion de cette invitation. D'abord, votre exposition « Comme le jour se fait lorsque la nuit s'en va », c'est à la galerie in situ Fabienne Leclerc à Romainville, c'est à voir jusqu'au 28 juillet. Alors vous présenterez aussi une performance, la vertigineuse histoire d'Orthoceste au Kunstfestival de Bruxelles. Ce sera du 19 au 22 mai. On peut également voir un time capsule dans l'exposition « Dans la Seine, objet trouvé de la préhistoire à nos jours ». C'est en ce moment dans la crypte archéologique de Notre-Dame. Ça, c'est pour l'actualité. Petit rappel, pour dire que vous êtes tous deux nés à la fin des années 60, à toute fin.
Mais vraiment toute fin.
69, au Liban. Vous faites donc partie de cette génération qui a vécu une enfance, une adolescence en temps de guerre, une guerre qui a pu sembler interminable et qui, de fait, a connu des moments de réactivation dramatiques, comme vous avez aussi pu le raconter à travers le film Je veux voir. Dans cette longue guerre du Liban, la question des disparus vous a particulièrement affecté votre travail aussi en conséquence. Pour rappel, il y a quand même eu environ 17 000 Libanais qui ont littéralement disparu durant ces années de guerre. Alors, morts à l'évidence, mais sans cadavres, sans sépulture identifiée, sans qu'on sache même les circonstances de leur disparition. Un nombre très élevé qui fait que chacun et chacune des Libanais, Libanaises a été touché dans son entourage. Il y avait eu cette double proposition Lasting Images en 2003 et 180, je le fais en français, Seconds of Lasting Images en 2006, centré sur un disparu qui se trouve être l'un de vos oncles, Khalil Jorej, parce qu'il y avait une bobine d'un film Super 8 qui avait été tournée dans les années 80, que vous aviez retrouvé en 2001. Mais la disparition, c'est aussi celle de la ville d'avant, ravagée par les guerres, et ravagée encore par la récente explosion du port en août 2020, qui a eu des conséquences pour vous, on va en parler. Les images d'avant ont été aussi des sources pour vos œuvres. Alors, bon, voilà, je voulais situer un petit peu le contexte, je suis allé un peu vite en besogne, on rembobine. Enfant, Khalil Jorej, vous rêviez d'être un ninja qui voulait sauver sa classe. Ça veut dire quoi, ça?
Je sais pas où vous avez retrouvé ça, mais c'est vrai, c'était un fantasme. Je crois que ça venait entre les Bruce Lee et les films de Karate Kid, etc. Et toujours l'idée de... Oui, peut-être parce qu'il y avait, c'était à Beyrouth, il y avait des contextes particuliers. Je me voyais comme un héros à l'époque, mais sans aucune velléité de faire les efforts pour le devenir.
Bon, vous avez fait d'autres efforts. Mais Johanna Di Thoma, vous aimiez déjà inventer, raconter des histoires. Vous avez d'ailleurs tenu des carnets, puis aussi une très longue correspondance. On voyait une amie qui avait quitté le Liban. ce qui a donné matière à un très récent film, Mystery Box, sorti au cinéma en France il y a 2 ans. Vous deux qui travaillez à mettre le passé au présent, on parle des premiers souvenirs d'enfance, ce serait quoi pour vous, Johanna G. Thomas, les premiers souvenirs?
C'est compliqué, il y a énormément... Les premiers souvenirs d'enfance, je pense qu'ils sont toujours liés à des choses très abstraites, des odeurs, mais disons que peut-être les guerres civiles libanaises, c'était mes premiers souvenirs, vraiment très très vifs. Quoi. C'est ceux qui m'ont hanté longtemps, sans que je les comprenne, et même jusqu'à l'adolescence, et puis que j'ai revisité comme... à travers ces cahiers, en fait, où là, tout d'un coup, c'était plus le fantasme, mais le réel, parce que justement, je crois qu'on réinterprète beaucoup toujours nos souvenirs, notre mémoire, notre passé, et là, tout d'un coup, de 13 à 18 ans, je ne pouvais plus me mentir, j'avais tout écrit, mais vous avez jour après jour.
Vous avez été très surprise en lisant ce que vous aviez écrit des années auparavant?
Oui, surprise de... C'est-à-dire, d'abord, il y avait beaucoup de cassettes audio, donc entendre sa voix, c'est pas une bonne surprise. Mais bon, disons que oui, ce qui m'a surprise, c'est que j'étais extrêmement différente, mais je me retrouve déjà très déterminée sur certains points, sur certaines décisions, sur la vie, comment je veux la vivre. Je suis déjà décidée, par exemple, à travailler avec la personne que je vais aimer, ce genre de choses. C'est déjà là. Khalil est déjà dans les cahiers. Ça, c'est plus étrange. Mais
une première rencontre à 11 ans.
Oui, à 11 ans.
C'est pas celle-là la plus importante.
Non, c'est une mauvaise rencontre en plus.
C'est vrai.
Une rencontre où je le trouve extrêmement antipathique et arrogant. Mais après quand même, ouais. je le trouve pas mal.
Bon,
mais
ça, on va y revenir.
Faut surtout pas qu'il le sache à l'époque.
Pour rester un moment sur ce moment d'adolescence au Liban en temps de guerre, je vais vous proposer d'écouter quelques rapides souvenirs de Daniel Armide, qui était mon invité en janvier 2023.
Dans les pays en guerre aujourd'hui, il y a des gens qui vivent et qui vivent des périodes intenses et qui vivent une adolescence, par exemple. L'adolescence n'est pas qu'américaine, quoi, occidentale. Et ça, on oublie. En Occident, on a l'impression que les gens sont là en train de pleurer toute la journée sous les obus pendant la guerre. Évidemment qu'ils souffrent. Mais on est des êtres humains, donc on vit, quoi. On cherche le bonheur même dans les plus petites choses. Il faut qu'on ait de l'espoir, sinon c'est pas possible. Et moi, j'avais de l'espoir quand j'étais petite. Pourtant, ça bombardait de partout, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Mais mon obsession, c'était... les histoires d'amour, d'amitié, surtout aussi avec cette bonne qui avait 18 ans, et c'est une histoire assez inspirée de faits réels, en fait. Cette chance d'avoir des amis, des possibles amours, la musique, et c'est ça ce que je voulais raconter. Oui, tout à fait. Ça, c'est beaucoup plus précieux que de vous raconter la guerre, parce qu'à 12 ans, j'étais pas journaliste et je n'avais aucune vision, en fait, de ce qui se passait autour de moi. Ce qui se passait autour de moi se passait à l'intérieur de moi. Et c'était ça le plus vrai.
Alors, si je voulais vous faire écouter ce petit passage, Daniel Armide, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, bon, on passe sur la première fois à 11 ans, mais après, à 16 ans, et dans une station balnéaire, je crois, et puis plus sérieusement, vers 17-18 ans, l'amitié, l'amour dont parle Daniel Armide se développe face à l'angoisse et à la terreur quand même d'un pays et du présent de la guerre. Votre rencontre, elle représente quoi dans vos vies respectives? C'est Ralin Chorej qui commence.
La rencontre, c'est justement de se trouver sans savoir qu'on s'était trouvé. C'est-à-dire que on avait des vies très différentes. C'est-à-dire que moi, j'étudiais la philo et le droit. Johanna avait fait Sciences Po et on décide ensemble de faire de la littérature. Et sans savoir ce qu'on allait devenir. On ne savait même pas que ça pouvait durer. On imaginait qu'en tout cas, on devait vivre ce moment-là comme un moment, comme le dit Daniel ici, vivre intensément ce moment-là parce que c'était celui qui comptait. Et on avait l'impression que notre problème, c'était justement de comment raconter. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé aussi à la littérature, c'est parce que c'était tout de suite les questions de représentation et de narration. Quelle histoire raconter quand on vient d'un réel perturbé ?
Littérature et images, parce que si vous étudiez en effet la littérature comparée, notamment, mais vous écrivez beaucoup, Johanna, mais Khalil, il passe beaucoup de temps à photographier. Et ces photos, d'ailleurs, elles vont servir pour Memory Box des années plus tard, mais il photographie beaucoup, lui.
Il photographie beaucoup, et en fait, quand on se rend compte, enfin, ce que dit Daniel, c'est tout à fait Memory Box, parce que c'est tout à fait mes cahiers. C'est-à-dire, on veut vivre, on comprend
danser,
rien
faire
du
la
conflit,
fête.
On comprend rien du conflit, mais c'est l'adolescence très intense, l'amour, l'amitié, vécu très intensément, des choses entravées. Et quand on se rencontre avec Khalil, effectivement, on met en commun son amour de la photographie, comme on le montre aussi dans le film, et mon amour de l'écriture, en fait. Mais évidemment, à l'époque, il n'était pas question de se projeter comme ça. On connaissait personne qui était un artiste ou un cinéaste.
Il n'y avait rien dans votre univers familial, amical. Alors, il n'y avait pas de cette dimension-là.
Pas du tout, aucune, même l'autorisation, s'autoriser, c'était très compliqué. Mais on a été rattrapé par ça, c'est-à-dire c'est obsessionnel ce genre de choses, et notre rencontre, ça a additionné ces deux obsessionnalités. Et voilà.
Et ça crée des émulations, c'est-à-dire qu'on s'est encouragé mutuellement, sans doute qu'on n'aurait pas eu le même courage tout seul. Donc ensemble, tout d'un coup, il y a un. Ben voilà, il y a quelque chose qui se fait, qui se passe, qui advient.
Alors, il y a des catalyseurs, évidemment, comme dans toute histoire, et notamment, on a bien compris que la photo, c'était une des portes d'entrée vers la création artistique, avec des images, d'abord, que vous regardez chez vos grands-parents respectifs, et puis cette carte postale, Wonder Beirut. C'est Khalil qui me décrit juste la description de l'image.
Très rapidement, ce sont des cartes postales qui commençaient à se retrouver après les guerres civiles, de lieux qui avaient été détruits et bombardés. Et en fait, on les a introduits dans une histoire d'un photographe qui les aurait prises et les aurait détruites pendant les guerres.
Les images, c'était vraiment le Beyrouth d'avant.
C'est les cartes postales d'avant-guerre.
Côte d'Azur, quoi.
Qu'on a rendu conforme aux réalités qu'on a vécues.
Ça, en effet, c'est ce travail-là dont on va parler. Mais juste avant cela, parmi les intellectuels qui ont nourri votre travail, qui ont participé à votre formation sensible, il y a évidemment Edward Said. On va l'écouter dans cet entretien qu'il donnait en 78.
J'ai été frappé par la constance et la cohérence des images et des représentations de l'Est ou de l'Orient, comme je l'appelle. Dans beaucoup d'éléments de la culture européenne, des peintures françaises du 19e, comme Jean-Léon Gérôme par exemple, ou des romans, comme ceux de Flaubert, de Disraeli, mais aussi des universitaires, des linguistes, des historiens, des anthropologues et des sociologues. Tous ces éléments ont contribué à créer une image unifiée de l'Orient, avec des caractéristiques fixes qui reviennent tout le temps. La sensualité, la tyrannie, le luxe, l'espoir, la cruauté. Alors, j'ai voulu montrer comment ce portrait collectif de l'Orient a émergé au 19e siècle et est devenu un ensemble cohérent. Et je l'ai relié, et je crois que c'est un des éléments qui ont fait polémique. Je l'ai mis en relation avec la puissance de l'Europe. Ce que je dis, c'est qu'en réalité, l'Orient n'existe pas. L'Orient est bien plus compliqué, plus varié et surtout bien plus détaillé que toutes ces généralisations basiques.
Alors, pour poursuivre le propos d'Edward Said, je fais écouter ce passage-là à ce moment-là, parce que ces cartes postales qui ressurgissent après la guerre sont elles-mêmes une construction d'avant la destruction. C'est quand même une vision très occidentale de Beyrouth qui est présentée sur ces images, Johanna Di Thomas.
Edward Said, que vous nous faites écouter, a été fondamental pour nous, bien sûr, dans cette. Et il nous a confortés avec cette idée qu'on voulait absolument faire des images qui nous ressemblent et se réapproprier nos propres images et nos propres récits. Et c'est ce qu'on fait depuis, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ces images-là étaient effectivement ne ressemblaient pas à notre réel, ni de loin ni de près. Parce que ce qu'on a fait avec ces cartes postales, c'est qu'on les a brûlées en suivant les trajectoires des bombes et des batailles de rue qui avaient eu lieu dans les hôtels, la grande bataille des hôtels. Parce qu'évidemment, ces cartes postales, elles vont montrer les hôtels, la Riviera, enfin tout ce qu'on montre comme ça, ce côté très suisse de Moyen-Orient qui a jusqu'à maintenant poursuit encore le Liban. Liban. Et nous, on voulait absolument montrer que le conflit libanais, c'était pas une parenthèse. L'histoire, c'est extrêmement important dans notre vie. Mmh. On a besoin de l'histoire, on a besoin de raccorder une continuité pour comprendre que les choses ne surgissent pas d'un coup, mais qu'au contraire, elles sont toujours reliées à des facteurs qui les dépassent, justement.
Ce qui est fondamental dans le texte, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est que Edouard Saïd dit que l'Orient, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, non pas qu'il n'y a pas un lieu, un territoire, mais qu'il faut toujours échapper aux définitions. Mmh. Et les définitions sont des jeux de construction du pouvoir. Mmh. Il l'attribue ici au XVIIIe siècle européen. Mmh. Aujourd'hui, avec, on voit dans la littérature d'autres mouvements qui le datent d'avant, mais c'est toujours aussi important.
Mais c'est vrai que pour ces cartes postales, vous les avez mises au présent, donc à travers ce personnage d'Abdallah Farah, le photographe pyromane, donc qui montre les effets très réels de la guerre. Il y a eu trois étapes, l'histoire d'un photographe pyromane, carte postale de guerre, et puis Image latente, ce journal photographique d'images que Farah a photographié, mais qui n'a jamais développé. Et je m'arrête là-dessus parce que cet adjectif latente, ce mot latence, il est important pour vous. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce mot ?
La latence, c'est quelque chose qui existe, mais dont les conditions de visibilité ne sont pas forcément réunies. C'est en image photographique, c'est une photo qui a été faite, mais qui n'a pas été encore développée. Et c'est un sentiment qu'on ressent énormément dans certains endroits, notamment au Liban, notamment quand vous parliez des disparus, des bombes à sous-munitions, de tout un... En fait, de ce qui, pour nous a poussé à vouloir devenir artiste et cinéaste, c'est d'essayer de rendre compte et de ce qu'on ne sait pas voir, de ce qu'on ne peut pas voir, d'essayer d'incarner quelque chose qui est là, mais dont les conditions de visibilité sont parfois problématiques.
Alors, à ce propos-là, je fais encore référence à une œuvre un peu ancienne, Le Cercle de Confusion. C'est une photo aérienne de Beyrouth, vous avez développée en 4 mètres par 3. Photo que vous aviez, Johanna Di Thomas et René Jorège, collé sur un miroir, découpé en 3000 fragments numérotés, au dos duquel est écrit « Beyrouth n'existe pas ». Voilà, on y revient. Donc, les visiteurs, nous étions tous invités à décoller un fragment. Et donc, forcément, derrière la photo, il y a ce miroir. On comprend, enfin, c'est comme ça que moi je l'interprétais, que vous souhaitez à la fois pointer la destruction de la ville, mais avoir aussi le souvenir du geste de cette destruction. Johanna Di Thomas.
Comme disait Edouard Saïd, l'Orient n'existe pas, Beyrouth n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pour nous, c'était cette idée qu'il n'y a pas de définition de cette ville, qu'elle ne fait qu'exister, que sa définition est continuellement remise en question par chaque visiteur qui viendra prendre un fragment de la ville qui est significatif pour lui, mais qui ensemble, en fait, vont former une image. Mmh. Et plus les images disparaissent, plus elles dévoilent un miroir dans lequel celui qui prend le fragment se voit, et toute l'installation se voit aussi. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est tout ce jeu sur révéler quelque chose, montrer, mais les images ne disent pas toujours les histoires comme il faut. C'est-à-dire que quand on met les images latentes, ce sont quand même 10 ans de photographies qu'on a prises, mais qu'on n'a pas développées. Et on a retiré ces images du flux, et on a inventé ce photographe qui avait une vie, avec une vie sentimentale, une vie familiale, et on a pris toutes ces photos. Et on a documenté comme ça un journal de Beyrouth de 96 à 2006, en 97 à peu près, à 2006. Et en fait, ça avait énormément d'importance pour nous de donner à lire des images et que chacun puisse imaginer les choses. Parce que c'est ça qui est au centre de notre travail, c'est l'autre aussi. Le regard de l'autre, voir à travers son regard, puis s'adresser à lui aussi. Que ce que lui prenne en charge un moment aussi, l'œuvre ou le récit.
Une autre voix à vous faire écouter avant d'en venir à cette exposition très riche en ce moment à la galerie in situ Fabienne Leclerc à Romainville. Une autre voix, celle de Georges-Didier Huberman, c'était sur France Culture en 2010.
La mémoire, c'est une construction. La mémoire demande à être construite. Et il ne faut pas croire qu'une image, c'est juste un donné comme ça. Pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Le genre de question que je me pose, c'est en effet... à quelles conditions une image peut aider à construire une mémoire autrement que par ce qu'on connaît trop bien, c'est-à-dire la sacralisation, l'icône, comme on dit maintenant, c'est-à-dire une image qui serait censée résumer à elle seule toute la mémoire. Mais c'est complètement idiot, ça, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que, en fait, je ne séparerai pas du tout la construction de la mémoire en tant que effort d'écriture et la construction de la mémoire en tant que remontage des images.
Il parle de vous, non, je pense.
Oui, j'ai l'impression. Au centre même de ce qu'on fait, c'est beaucoup les constructions d'imaginaire. Nous, on parle plutôt d'écriture de l'histoire et de construction d'imaginaire. Dans l'imaginaire, c'est justement les faits et les fictions qui n'arrêtent pas. Il y a cette tension en continu. Mais c'est vrai que, oui, il a l'air de parler de quelque chose qui nous ressemble, en tout cas.
Allez, Jaurès, vous l'entendez comment ?
Georges Zimmermann a été une lecture aussi très importante, mais c'est quelque chose qui est constant dans notre approche. C'est ce rapport, je dirais, aussi au réel, pas simplement à la mémoire ou à l'histoire, mais c'est comment ce réel, à un moment, on s'en rend compte. Comment il nous affecte, comment il...
Nous travaille aussi.
Il nous transforme, il nous permet de voir, mais il nous permet de comprendre, il nous permet de le percevoir. Parce que parfois, on le déforme, parfois, on le triture, parfois, on ne veut pas voir. Et les conditions de ces latences dont on parlait juste avant sont exactement là. Dans quelles conditions on arrive à voir le réel tel qu'il se présente et sa complexité
Cette complexité, hein, on la retrouve, cette richesse aussi, ça va avec, hein, dans cette exposition à la Galerie In-Situ Fabienne Leclerc à Romainville, sous le titre « Comme le jour se fait lorsque la nuit s'en va », des œuvres pour la plupart très récentes, vraiment très très récentes, de nature très variée. On va essayer de nous y promener un peu pour savoir comment ces œuvres sont nées, ce qu'elles ont à nous dire. Alors, quand on arrive, la première... chose que l'on voit et que l'on entend, ce sont des soupirs, hein, puisque c'est une série 2024, donc c'est pour dire à quel point c'est récent. La série s'intitule Index des soupirs, donc il y a de la photographie, il y a du son, une forme de mystère, et puis il y a une forme de lamentation quand même, il y a quelque chose de la déploration, hein, soupir c'est quand même rarement, sauf à Venise, on a transformé le soupir des prisonniers en soupir des amoureux, mais ça en dit long aussi. Formellement, il y a des tirages photographiques qui sont encadrés, accrochés dans l'escalier, on a des regards. Alors, on peut reconnaître tes regards si on connaît les personnes qui sont photographiées ou pas. Sous la ligne des yeux, il y a une onde, enfin, la visualisation d'une onde sonore, et puis il y a un QR code. Comment elle est née, cette série, si récente? Ouais, c'est Johanna Dittema qui commence.
Elle est née parce que c'est très difficile de parler en ce moment. C'est très difficile de mettre, d'utiliser des mots. On soupire énormément. Déjà, le soupir, c'est une constante extrêmement présente dans la musique arabe qui nous fascine depuis très longtemps. On a beaucoup travaillé sur le tarab, la musique arabe, et surtout aussi sur Umm Kulthoum, sur ses soupirs incroyables qu'elle a dans certaines de ses pièces, je dirais.
Oui, c'est vrai.
Comme Al-Atlal. Et c'est vrai que moi, je soupire énormément en tant que personne, et je trouve que c'est quelque chose de très important. Et en ce moment, je crois que on peut pleurer ensemble, on peut soupirer ensemble. Et pleurer, on a beaucoup pleuré, mais là, soupirer, c'est et mêler nos soupirs, c'est aussi une façon de vouloir communiquer malgré tout, et de recueillir ces soupirs et d'en faire quelque chose. Nous sommes assez importants.
Justement, comment on trouve la forme idoine? Il y a cette idée, ce que vient d'énoncer Johanna Dittema, mais ensuite René Georges, comment est-ce que vous faites pour trouver la forme qui vous semble la plus juste?
En fait, il s'agit d'une série de portraits, d'un moment qui est celui du soupir. Donc, le moment, on enregistre le moment du soupir et on le photographie en même temps. On essaye après de déterminer quel genre de soupir il y a entre le photographe. C'est-à-dire qu'on doit penser à un moment, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer. Et c'est complexe, un soupir, parce que on n'entend pas la même chose. Et donc, il faut essayer de le redéfinir. Alors, vous avez parlé de lamentation. C'est pas toujours une lamentation pour moi. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la respiration, du souffle. Et la notion de souffle est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de cette exposition on va faire référence à Celan et à la poésie. Cette façon de pouvoir respirer. Ça peut être une lamentation, ça peut être une respiration. Et c'est ce moment qu'on doit déterminer ensemble, qui est assez abstrait et qui détermine le moment de la prise de vue.
Mais on voudrait aussi créer ultimement une énorme chambre de soupirs avec beaucoup, beaucoup de soupirs recueillis. On est au tout début de cette aventure des soupirs.
Il y avait les battements de cœur de Christian Boultowski, voilà. Il va y avoir vos soupirs.
J'aime beaucoup cette pièce, on va faire référence à... mais sur cette... très humblement.
Alors, je parlais de lamentation, mais parce que c'est vrai que le contexte étant si joyeux aujourd'hui dans le monde.
Bien sûr, c'est une lamentation.
Moi, je l'ai entendu évidemment comme ça, parce que les sons aussi circulent dans l'espace, mais c'est Valère Novarina qui mon invité à ce début de semaine, parlait justement de cette question de l'inspiration, la respiration, et l'inspiration comme une mort, et l'expiration, on meurt chaque fois qu'on inspire, finalement, quelque chose qui meurt en nous, et l'expiration qui peut être celle du soupir, c'est en fait un retour à la vie aussi.
Ah, c'est joli, mais je ne savais pas que l'inspiration était une mort.
Non, c'est comme ça qu'il le voit.
J'ai toujours imaginé l'inverse.
Parce qu'on disait, c'est le dernier souffle.
Oui.
Le dernier souffle. Mais c'est vrai qu'il y a une recherche dans cette exposition de quelque chose qui n'est pas lointain de ça. Continuer à respirer, continuer à créer.
Continuer à regarder.
Continuer à être regardé aussi, à partager. C'est pas quelque chose de si facile en ce moment. Donc, c'est vrai que c'était très important de garder aussi quelque chose de l'ordre de la lumière et du partage dans cette exposition.
Alors, je continue un peu la visite. Pour l'instant, elle est au rez-de-chaussée. Alors, le film, là, vraiment, la pièce la plus ancienne, 2017, c'est pour dire. C'est le film Palimpseste, qui était réalisé sur un chantier de fouilles archéologiques. Vous avez pris quantité de photos. On va évoquer ce que vous avez fait de ces photos et de ce qui s'est passé ensuite avec elles. Mais de fait, il semblait quand même un peu inéluctable que vous vous intéressiez un jour ou l'autre à cette question de sédimentation, de quoi sont faits nos sols, sur quoi on marche, qu'est-ce que sont que ces diverses couches d'histoire, ces strates, qu'est-ce que ça a ouvert chez vous comme réflexion, interrogation, que de voir ces archéologues au travail?
On est tombé en archéologie, en fait, comme on va dire, parce que c'est par hasard. Nous, c'est toujours un peu par hasard, nos histoires. Et en fait, on a un ami qui fait des carottages, et les choses ont commencé un peu
carottage,
comme ça.
Carottage, donc, très simplement.
Voilà, ce sont des forages dans le sol qui vont aspirer des pierres.
Et plus on va au profond, plus on va loin.
C'est plus problématique. Bon.
Mais très souvent, on va au-delà de l'entropie et de la présence humaine, on arrive jusqu'à la géologie. Et en fait, sur un chantier, Khalil avait été voir et il a vu ces boîtes où on dispose toutes ces pierres. Et là, tout d'un coup, ça a été comme un déclic. C'est que ce qu'il y a sous nos pieds, nous, on ne le sait pas. Ces couches de terre, de civilisation. Et on s'est mis à vouloir à tout prix comprendre ce que c'était. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été le centre du prix Marcel Duchamp qu'on avait présenté à Pompidou.
Avez remporté, rappelons-le.
Voilà, on peut le rappeler. Et en fait, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous, parce que ça a changé notre conception de l'histoire et notre façon, notre rapport au monde, vraiment, puisque ça nous a aussi beaucoup apporté sur cette idée de cycle, de construction, de destruction, de catastrophe et de régénération. Parce qu'il y a de la régénération après la catastrophe.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport aux sédimentations, on imagine toujours que le plus ancien est en bas et que ça remonte. Et on dit toujours que Beyrouth, il y a 7 couches de civilisation. Donc, la dernière, c'est celle dans laquelle on vit. Mais le problème, c'est que nous vivons dans des univers perturbés où il y a tout le temps des ruptures. Et par exemple, le creuset, c'est inversé tout d'un coup.
On remet sur le dessus ce qui était en dessous.
Voilà. Or, il faut imaginer que dans nos contextes, c'est un peu plus que ça. Et donc, c'est des sortes de palimpsestes géants qui nous ont poussés à réfléchir non plus sur ces chronologies. Donc, de nouveau, la réflexion sur la narration qui n'est plus une suite linéaire, mais plutôt des phénomènes de recyclage, des changements d'échelle, de temps, de temporalité. Et ce sont des actions.
Et ça a donné des formes différentes. J'évoquais l'exposition en ce moment à la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris. Cette time capsule, qu'est-ce que c'est que cette forme-là, Khalil Jorej?
Alors quand on a commencé à travailler, comme on avait commencé par des carottages, les carottages n'indiquent pas grand-chose parce que c'est un prélèvement qui fait un diamètre de 10 cm à peu près. Donc ça peut, on peut traverser une sculpture et en penser que c'est un pavé. Donc on ne sait pas. Par contre, généralement, on s'intéresse à des lieux qui vont être travaillés par des archéologues, qui vont venir donc travailler sur place et excaver, et pouvoir nous raconter donc les éléments trouvés. À l'invitation de la du musée de la crypte archéologique de Sylvie Robin, on a été autorisé à pouvoir travailler sous Notre-Dame et dans la crypte. Donc c'était une occasion incroyable pour pouvoir récupérer des sédiments, récupérer les carottages qui ont été faits dans Notre-Dame et de rendre compte d'histoires incroyables qu'on a découvertes, notamment dans la crypte et sous Notre-Dame.
Ces carottages, en fait, on les retravaille avec des archéologues et des géologues et on les resculpte, on retravaille un peu les suites, mais sans changer l'ordre dans lequel on les a trouvés. Et puis, ce qui était très important pour nous, ce qui est toujours, c'est de les mettre dans de la résine, une résine expérimentale. On les fixe dans cette résine, mais c'est une résine complètement transparente. Donc, on a l'impression vraiment d'avoir accès à ce qu'il y a sous nos pieds. Et à la crypte, moi, j'invite tout le monde à y aller parce que l'expo est superbe dans la Seine, vraiment. Ouais. Et il faut voir aussi que cette crypte, elle subit des transformations. Et ils le verront quand ils seront sur place.
Je n'ai pas trouvé de date de fin pour l'exposition en cours. C'est-à-dire qu'elle est ouverte pour très longtemps?
Pour le moment, oui, elle durera plusieurs mois.
Bon, ça c'est très bien. Donc on peut y aller. Mais on revient au Liban. Je reviens sur ces fouilles, puisque donc, vous avez photographié les résultats de ces fouilles, la façon dont les archéologues avaient disposé leurs découvertes. Vous avez exposé ces images dans votre studio à Beyrouth, sauf que ce studio il a été dévasté par l'explosion sur le port le 4 août 2020. Mais ce nouvel effacement, ou cette nouvelle disparition, encore une, a fait naître une nouvelle série d'œuvres, grâce notamment au bon conseil d'une amie chère, la poétesse et plasticienne Etel Adnan, disparue depuis. Alors, en écho, vous allez voir un peu lointain, mais quand même, à ces œuvres dont on va parler, on va l'écouter, Etel Adnan, au micro d'Alain Kruger, c'était sur France Culture en 2017, elle évoquait ses souvenirs en Syrie.
Ça me paraît un monde révolu. Il n'est pas là, mais je peux en parler. Mais c'est un effort d'en parler. Il est parti. Mais il n'est pas oublié. Mais c'est un monde, je ne me souviens peut-être pas de chaque détail, mais sa nostalgie, son poids, mais très présent. C'est presque un poids physique.
C'est un poids léger ou c'est un poids douloureux?
Non, c'est un poids lourd, mais pas douloureux. It's heavy. Je le sens dans mon corps, il me fait m'asseoir. Comme dans la poésie, les soirs d'automne, vous voyez. C'est un automne, c'est... L'hiver est derrière, vous voyez, c'est parti. Il y a aussi un questionnement, qu'est-ce que c'était que ce monde?
Qu'est-ce que c'était que ce monde, dit Etel Adnan. Quelle place elle a occupée dans vos vies, dit Thomas?
C'était une grande amie, déjà. On était liés par quelque chose de très fort parce que on a fait un film ensemble d'ailleurs avec Khalil, puisqu'elle venait, sa mère était née à Izmir à l'époque, en Turquie, mais mon grand-père aussi. Et tous les deux avaient été obligés de quitter Izmir et nous en avait parlé énormément. Et ce qu'elle parle justement, ce poids, on a essayé dans ce film avec Khalil, de montrer comment on pourrait ne pas continuellement porter le chagrin de nos parents et inventer quelque chose de nouveau. Nous n'étions pas, disons, du même côté de l'histoire, mais ça ne nous semblait pas avoir d'importance. L'importance, c'était de vraiment partager quelque chose qui était au-delà. On s'intéressait toutes les trois à l'Empire ottoman, beaucoup, parce que c'est lui qui est à la base de tout ce qu'on vit aujourd'hui, son démantèlement, la colonisation qui est venue après. Et donc, c'était très important aussi de parler de nos parents et de parler de comment ils avaient traversé ce temps-là, ce passé dont elle parle, et comment ce monde-là, et comment nous n'étions pas obligés d'être uniquement leurs héritiers, qu'on pouvait réinventer quelque chose d'autre.
Quel conseil elle vous a donné alors suite à la destruction de ces photos de fouilles Khalil Jerej?
Alors, en fait, elle n'avait pas donné de conseil directement sur ces photos-là. Elle nous avait dit, étant donné que Joanne a échappé par miracle à l'explosion en se cachant sous la table et qu'elle en avait gardé un peu quelques séquelles qu'elle voulait traiter. Est-elle lui disait tout le temps la tapisserie, c'est du temps et c'est un temps qui répare, qui restaure. Et elle nous avait amené ses dernières pelotes de laine parce qu'elle était elle-même très intéressée par la. Elle voulait que Joanne et notre fille fassent de la tapisserie. Et en fait, c'était un conseil qui était là sur ce travail physique qui pouvait soigner certaines choses, qui pouvait en tout cas aider à trouver un pansement sur certaines choses.
La tapisserie, c'est pas notre médium de base.
Non.
On fait de la photographie.
C'est sûr. C'est surprenant.
Et parfois, des films. Bon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, ces images elles ont passé beaucoup de temps dans notre studio en tant que photographie, support photographique, mais on savait pas trop quoi faire avec parce que elles sont très particulières. Elles racontent, on les appelle des messages sans code, parce qu'elles racontent, en fait, l'effort qu'un archéologue a fait sur un chantier, alors que ce chantier allait être totalement détruit et que la fouille n'était pas du tout terminé pour lui. Il a posé des bouts de gaz et sur ce gaz, avec des tamis, il a gardé une empreinte, des pierres, de la terre, des petites présences humaines. Et c'était très beau de voir ça. Et pour nous, on se dit que c'est comme ça, comme les entrailles de la terre qui nous sont offertes, toutes les temporalités les unes à côté des autres. Alors, essayer de passer par la tapisserie, comme dit Khalil, pour restaurer quelque chose et pour aussi montrer que les choses ne sont pas unidimensionnelles parce que ces tapisseries, elles ont du relief.
Oui, et puis elles sont légèrement décollées du mur. Hein. Moi, j'étais voir derrière, évidemment.
Mais en fait, la tapisserie est un médium à deux dimensions parce que c'est tissé, c'est en juxtaposition. Et donc, nous, tout le travail était d'essayer de travailler avec le laboratoire du musée du textile en Hollande à essayer de rendre compte d'une profondeur. Mmh. Et c'est venu par la tension du fil. Et ça, c'est un nouveau monde qu'on a découvert.
Ouais,
et
vous êtes tombé en tapisserie, ça y est.
Non, on reste en archéologie pour le moment.
Mais voilà. L'expérimentation a été fantastique pour ça.
Alors, poésie aussi, alors d'une toute autre manière, parce qu'il faut montrer, il faut voir à tout prix, et ça nous amène à un film aussi qu'on voit dans l'exposition, c'est Sarcophage aux amours ivres. On va y entrer par sa bande-son, un extrait de cette bande-son que vous nous avez proposé d'écouter ensemble. Film magnifique, mystérieux, intrigant, envoûtant. Il faut aller voir ce sarcophage des rêves. Quel est le titre français ?
Aux amours ivres.
Voilà. Drunken Loves, évidemment. Parce que, alors, il y a l'histoire, il y a le fait que, on sait que le Liban n'est pas dans un état fameux, et que les coupures de courant sont légion aujourd'hui, et qu'elles peuvent survenir à tout moment, mais que ça n'empêche pas d'aller dans les musées. Et si tout d'un coup, il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, maintenant, on a nos torches sur nos téléphones, ou nos lampes de poche, et ce film nous invite, comme ça, à suivre le parcours de quelques visiteurs et d'avoir ces images absolument magnifiques. Mais j'en profite pour faire un lien tout de suite avec une autre pièce, parce que ça pourrait être le chemin qu'Orphée fait aussi pour chercher Eurydice, qui est une autre source d'inspiration d'une autre pièce qui s'appelle « Mais ma tête continue à chanter », où là on a deux vidéos projetées de façon synchronisée sur des écrans qui sont en verre brisé, enfin c'est cet effet comme ça de la sécurité qu'on aurait cassé, qui joue aussi en écho avec les pièces de la série Correspondance lumineuse. Là ce sont des séries de boîtes lumineuses avec des photographies, mais surtout des textes ou des extraits, des fragments de textes qui nous sont donnés à lire. On a l'impression que tout d'un coup la beauté, la poésie, c'est ça qui pourra sauver le monde. Je suis un peu grandiloquent là, Joanna Di Thomas.
Depuis un moment, depuis plus d'une dizaine d'années, en tout cas, Khalil et moi, on travaille beaucoup autour de la poésie. On emprunte dans un projet qu'on appelle « J'ai regardé si fixement la beauté », qui est un vers de Constantin Cavafy. On emprunte des poèmes et qui nous inspirent. Et là, c'est vrai que c'était au centre, c'est cette histoire d'Orphée quand même, l'Orphée, ce grand poète qui, démembré par les ménades furieuses, qu'il soit si triste après la mort d'Eurydice, le disperse partout, mais sa tête, elle, continue de chanter. Et c'est vrai que on se demande si on peut continuer de créer, de chanter dans ce temps, dans ce monde, dans ce temps si atroce. Et en fait, effectivement, la poésie peut nous aider aussi. Et cette pièce, elle revisite à travers des poèmes d'Ovide, de Virgile, de Goethe, de Rilke, de tous les poètes qui ont écrit sur... Enfin, une grande partie des poètes, plutôt, qui ont écrit sur Orphée. Mais plastiquement, ces vers sont dits d'abord par des gens qui sont à la voix exténués, fatigués, qui sont dans ces lieux où il y a toutes ces guerres, mais qui continuent de vouloir proférer de la poésie. Et en même temps,
comme ceux qui veulent continuer à voir les œuvres dans les musées.
Dans le musée, parce que ça, c'était aussi extrêmement émouvant.
C'est vraiment ce lien. Très fort.
De rentrer dans le musée par hasard avec nos enfants et de voir tous ces gens qui avaient des torches, qui utilisaient leur téléphone pour voir.
Oui, on a ces pièces sont vraiment très connectées pour moi. Vous les ressentez comme ça ?
Elles font pas partie des mêmes ensembles, mais en même temps, ici, il y a la nécessité de la poésie dans un monde de plus en plus difficile.
C'est l'euphémisme.
Oui,
Et on s'est souvenu de cette correspondance qui avait eu lieu entre Adorno et Celan, qui nous a beaucoup inspirés, et Adorno qui disait que toute poésie après la Shoah était un tas d'ordures, et Celan qui sort des camps, qui insiste pour écrire même en allemand. Et en fait, c'est un clivage entre certains qui y voient l'harmonie et d'autres, comme Celan, y voient le souffle, une respiration.
Bon, on aura dit quelques mots, mais c'est parce que c'est une très riche exposition, et puis on l'aura compris avec beaucoup de formes très nouvelles aussi dans votre travail, Joanna Di Thomas et Khalil Jorej, comme le jour se fait lorsque la nuit s'en va, à la galerie in situ Fabienne Leclerc, c'est à voir jusqu'au 20 juillet. Vous serez donc au Kunsten Festival de Bruxelles pour la vertigineuse histoire d'Orto, c'est la performance, c'est du 19 au 22 mai, et puis pour des mois et des mois, on peut aller voir la très belle exposition dans la Seine, objet trouvé de la préhistoire à nos jours, c'était à la crypte archéologique de Notre-Dame. Merci à tous deux d'avoir été nos invités.
Merci beaucoup.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
West End Girls, It's a Sin, Suburbia. Les Pet Shop Boys ont assuré quelques-uns des plus grands tubes des années 80. La carrière du duo anglais composé de Neil Tennant et Chris Lowe s'est en effet construite autour de morceaux dansants, mélancoliques et entêtants. Avec plus de 50 millions d'albums vendus dans le monde, ils ont su se renouveler en allant chercher dans la New Wave, la Disco ou encore la House les armes d'une musique réellement populaire. d'une régularité à couper le souffle, les deux sexagénaires tiennent la dragée haute aux nouvelles égéries de la pop. Leur nouvel album, Nonetheless, le 15e d'une discographie aux allures de monument national, est une nouvelle réussite. Entouré par l'indispensable producteur James Ford, ouvrier des albums de Depeche Mode, Arctic Monkeys et du très attendu prochain album de Beth Gibbons, le duo combine cordes et synthétiseurs pour offrir de nouveaux hymnes au dance floor. Si la grande surprise de ce disque est la présence d'un titre Schlager, du nom de ce style allemand au kitsch très assumé, on ne se lasse pas de l'efficace Dancing Star, c'est notre son du jour.
Amalfi, blue skies, blue sea, it's a long way from Siberia, how did you get here?
C'était Dancing Stars des Pet Shop Boys, extrait de leur nouvel album Nonetheless.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Alula, au nord-ouest de l'Arabie, cité archéologique d'importance majeure. Et la France, via l'Agence française d'Alula, accompagne les fouilles, les études et l'ouverture à la visite de ces sites incroyables. Alors il y a 2600 ans, les routes commerciales qui passent par là ont favorisé la croissance d'une ville, Dadan, qui fait aujourd'hui le bonheur des archéologues qui en sont qu'au tout début de leurs recherches. Qu'est-ce qu'on voit là quand on regarde dans les jumelles ?
Je ne vais pas regarder moi dans les jumelles, mais ce qu'on voit c'est les tombes et particulièrement on arrive à bien voir les deux lions qui sont au-dessus d'une tombe et qui montrent la puissance de ce personnage-là.
Donc nous voilà devant une énorme façade rocheuse et c'est ici qui était l'ancienne ville de Dadan qui est un lieu clé de la route de l'encens qui passait par ici. Et c'est aussi ici qu'était la capitale de deux civilisations majeures. Et donc en face de nous, dans ce monolithe rocheux, eh bien, on voit des, comme des fenêtres, des petites ouvertures qui sont en fait des tombes qui ont été retrouvées sur ce site, nombreuses. Donc des jumelles sont installées pour qu'on puisse voir un peu plus près ces restes de cette civilisation. Donc les sites archéologiques ici sont encore très accessibles. On est bien sûr accompagné par une guide, mais on peut s'approcher de très près. Là même, on est en train de rentrer dans la, dans ce qu'il reste, hein, de la cité de Dadan, avec toutes les différentes tessons, les pierres qui ont été retrouvées, et notamment des pierres ornées avec un motif de serpent sur la tranche. Bonjour.
Bonjour.
Je vous entends parler français lors de cette visite de la cité de Dadan. Vous habitez par ici ?
En fait, j'habite à Riyad. Je suis expatriée à Riyad. Mon mari travaille là-bas et je suis en visite avec mon fils.
Et alors, Alula, quand on habite à Riyad, ça correspond à quoi ? C'est une destination touristique, culturelle ?
C'est une destination repos, culturelle, très agréable, qui fait, nous fait sortir de la ville, très très calme. Nous, on vient en voiture, on prend notre temps, on a 11 heures de route, mais c'est très très agréable de venir se reposer dans cette atmosphère enchantée.
Et les sites archéologiques là, qu'on vient de parcourir, on vient de faire la vieille cité de Dadan, là on va voir maintenant cette bibliothèque à ciel ouvert. Ce sont des sites qui ont été mis à jour et proposés à la visite il y a peu de temps. C'est quand même un patrimoine exceptionnel qu'on voit ici.
Oui, on est très très chanceux de pouvoir visiter ça, d'autant plus qu'il y a encore peu de touristes qui connaissent. Donc on se rend compte du cadeau que c'est de pouvoir découvrir, alors que les fouilles ont encore lieu. On nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait que 7% du territoire de fouilles qui avaient été explorées. Donc on sait que dans quelques années, il y aura encore beaucoup plus de choses, et ça dans toute l'Arabie, parce qu'en fait, c'est très très peu exploré, même si j'ai lu tout à l'heure que depuis la fin du 19e siècle, il y a des archéologues européens qui viennent, mais malgré tout, il reste encore tellement de choses. En fait, ça fait à peu près 5 ans qu'on peut avoir des visas touristes pour venir ici, et moi, je suis épatée de voir à quel point c'est beau partout.
Bon, là, je crois qu'on va aller découvrir une bibliothèque assez ouverte avec plein de formes d'écriture et de graphies différentes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors nous voilà sur le site de Jabal Iqma. C'est cette immense paroi rocheuse sur laquelle ont été retrouvées des centaines de graphies et d'écritures différentes. Ce qui explique qu'on l'appelle cette immense bibliothèque à ciel ouvert, car on l'a entendu tout à l'heure, uniquement 7% du territoire de ces anciennes cités ont été fouillées jusqu'à présent, donc ça donne un petit peu l'étendue de ce qu'il reste encore à découvrir. Donc Jabal Iqma, c'est considéré comme la bibliothèque à ciel ouvert, parce qu'on retrouve énormément d'écritures, des passages de différentes civilisations, principalement des écritures dadanites. On les a reconnues parce qu'elles ne présentent pas de voyelles. L'écriture dadanite est différente de ce que pour le moment les archéologues et les scientifiques ont réussi à décrypter. On retrouve environ 3 différents types d'écritures, à savoir donc soit des prières, soit des choses plutôt officielles, à savoir quel roi a été élu, ou sinon simplement des sortes de graffitis, de signatures de quelqu'un qui est passé par ici.
Oui, parce qu'en fait, on est là sur le trajet de la route de l'encens, donc ce qui explique que c'était un lieu de passage.
Exactement, c'est un lieu de passage très fréquenté pour l'encens, mais aussi pour d'autres matières premières. Et Dadan était un endroit de commerce important où se faisaient les échanges de marchandises pour après les répartir exactement dans différents pays. Et on va retrouver également des gravures de chameaux. Donc on en a une sur le chemin, mais tu en as aussi au-dessus.
Donc il y a des chameaux qui sont dessinés ou d'autres bêtes avec des chasseurs, des dessins plutôt. Et donc ce qui nous a permis de remonter la date de domestication des chameaux notamment.
Et bonjour et bienvenue, je m'appelle Aljawhara. Je suis une touristique guidée à Lola et nous sommes ici à Hegra.
Alors est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on a sous nos yeux ? On voit différentes tombes, d'où elles viennent, de quand elles datent ?
Alors, on parle ici des royaumes des Nabatéens qui sont arrivés à Hegra au moins du 2e siècle Égée. Et avant, ils ont à Petra, en Jordanie.
Et vous pourriez nous décrire, pour nos auditeurs, en deux mots, ce sont des tombes qui sont creusées dans la roche ?
Pour les tombes, oui, c'est toujours dans les roches, parce qu'elles ont croix de la dernière vie, à la ciel, par exemple. Elles ont toujours vécu normalement dans des maisons, mais pour les tombeaux, c'est toujours de la montagne.
Et combien il y en a ? Combien on peut en voir ?
Plus de 111 tombes, ici à Hegra.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je suis Apolline Vernet et je suis directrice du projet d'études de la Old Town d'Alula.
Alors comment ça se fait qu'une équipe de recherche française soit ici à Alula ?
Alors on a été commandité par l'agence française d'Alula qui travaille en partenariat avec la RCU, la Royal Commission qui se trouve ici. Et donc on a été mandaté à partir de 2020 à travers la société Arkaios, qui est une société d'études et de recherche en archéologie, pour étudier cette Old Town.
Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier par rapport à toutes les vieilles villes qu'on peut retrouver dans le Moyen-Orient ?
Alors, c'est une vieille ville comme les autres. Ce qui nous a intéressé ici, c'est qu'elle se trouve au cœur d'une vallée luxuriante et pleine de sites archéologiques. Donc c'était la dernière entité historique de cette vallée, parce qu'elle a été abandonnée dans les années 80. Et donc on s'est intéressé à cette vieille ville et on a essayé de rechercher un petit peu l'histoire qu'il y a derrière, et essayer de regarder dans ses murs, dans la stratigraphie, un petit peu comment se déroulait l'histoire. Et on a des super résultats.
C'est ce que j'allais vous demander.
Bien sûr.
Vous avez déjà des pistes et des résultats scientifiques à communiquer ?
Oui, on en discute beaucoup avec nos collègues. Et la Old Town est partie prenante de cette histoire de la vallée. Il y a une occupation beaucoup plus ancienne que celle qu'on observe actuellement. Et c'est ce qui va être tout l'enjeu de ce projet, de publier et de rendre hommage à cette histoire millénaire.
Et vous restez combien de temps, par exemple, sur un projet comme ça à Lula ?
Alors, ce projet est un peu particulier parce qu'on est là à l'année. On arrive, on est là 9 mois par an, à peu près. C'est pour ça qu'on est aussi ici aujourd'hui à la Camel Cup. C'est parce qu'on est dans notre environnement classique, d'Aloulien. Donc on suit un peu ce qui se passe. Et puis c'est ce genre d'endroit, c'est aussi l'occasion de comprendre un peu mieux dans quel milieu on évolue. Et donc oui, c'est un peu particulier notre présence ici, aussi longue à l'année. Les missions archéologiques en général font un mois ou
elles sont plus courtes habituellement.
Deux par an pour être vraiment... concentré sur un élément précis. Ici, tout l'enjeu était d'être présent au quotidien pour faire face justement à l'ouverture de la Old Town. Il fallait qu'on soit présent pour être aux côtés aussi du développement.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Les fouilles consacrées aux civilisations d'Adani, notamment aujourd'hui en cours à Alula, et le développement depuis 2018 de festivals et d'événements culturels confirme que le désert, souvent perçu comme stérile et inhospitalier, a toujours été et reste toujours un lieu de vie et de création.
Suite du Grand Tour lundi, Marie Sambier, où serez-vous ?
Lundi, Arnaud, je serai à la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts.
Merci Marie et à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.